7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. La parole est aux jeunes qui veulent entreprendre en Afrique aujourd'hui avec le coach Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous dirigez Afrique Search, société de conseil en ressources humaines, et comme chaque mois, on a l'immense plaisir de vous recevoir avec les voisins et les voisines qui nous appelez. Bien sûr, vous nous appelez pour nous parler de votre projet d'entreprise. Vous êtes un jeune diplômé ou un petit peu plus expérimenté. Vous essayez de vous développer dans le secteur de l'agrobusiness, des services, du social, peu importe le secteur. Vous êtes un jeune patron de l'Afrique qui gagne, mais souvent aussi en galère.
Et c'est normal, il faut galérer pour gagner, ma chère Emmanuel.
Didier Akwété, en tout cas, vous écoute, vous conseille, à condition bien sûr d'être bien avancé sur votre projet ou d'avoir une jeune entreprise et d'être très convaincant. Alors si vous êtes une petite équipe, vous désignez un porte-parole, c'est très simple. Et en plus, il y a de plus en plus de femmes dans vos aventures, on a envie de les entendre également, les voisines. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Et également, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, en message privé. Allez, c'est parti pour l'émission des JPAG.
Les patrons de l'Afrique qui gagnent, évidemment, Emmanuel.
Et le J ?
Les jeunes, évidemment, c'est une émission pour les jeunes, comme nous.
Jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Allez, c'est parti, on démarre.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Et c'est rare, mais ça nous arrive, nous avons un voisin qui est de passage dans le studio de RFI des 7 milliards de voisins. Bonjour Sidi.
Bonjour.
Vous avez 30 ans, vous résidez à Dakar, vous êtes diplômé d'un Master 2 d'économie en politique et négociation commerciale à l'université Charanda Diop. Vous avez d'ailleurs commencé à travailler comme simple commercial pour une entreprise de e-commerce au Sénégal, qu'on va nommer quand même, c'est Cdiscount. Vous avez été responsable des ventes et puis Cdiscount a fermé. Vous avez lancé votre propre site de vente en ligne en 2016, que vous avez revendu. Donc, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, comme on dit. Et vous avez rejoint Weebee, qui venait juste de se créer. Qu'est-ce que c'est exactement, Weebee ?
Weebee, au fait, c'est une solution de vente. Peut-être je vais commencer avec l'histoire de Weebee. C'est parti d'un boutiquier Amadou qui a renversé son bouteille d'huile sur son cahier de compte. Cela a causé la panique chez Amadou. Il a failli perdre tous ses données clients. En même temps, on a constaté qu'en Afrique, il y a 70 000 gérants de magasins qui ont le même problème que Amadou, qui continuent d'utiliser seulement le cahier pour enregistrer leur chiffre d'affaires.
Oui, c'est ça. Donc, ils notent l'argent qui rentre, les dépenses, etc. du magasin, de la société.
Oui. Tout est noté dans un seul cahier. Oui. Et c'est trop risqué. Souvent, je raconte le cas qui s'est passé au Sénégal. Le marché de Sandaga, une partie qui est partie en feu. Là, on voit que les commerçants étaient dans tous leurs états. Ils ont perdu presque de l'argent, ils ont perdu les comptes clients. Donc ça, ce sont des problèmes qui sont récurrents en Afrique.
Ouais. Donc comment marche ce... C'est un logiciel, hein?
Oui, c'est une application mobile qui est disponible sur Play Store, donc gratuitement. Donc le commerçant peut aller directement sur Play Store, télécharger l'application et commencer à l'utiliser. Soit il peut l'utiliser en revenant vers nous, ou bien s'il est capable de l'utiliser seulement, c'est bon.
C'est-à-dire que vous proposez de former les commerçants. Alors, cette application, et qu'est-ce qu'elle permet de faire?
Ce qu'elle permet de faire, c'est de facturer à leurs clients avec une facture. Donc,
on peut facturer, on peut faire de la gestion de stock aussi.
De la gestion des stocks, en plus, suivre les ventes par période, puisque à part de l'application, il y a une partie où vous pouvez suivre le bilan par période. Et ça aussi, c'est important pour tout commerçant.
Savoir à quel moment on a bien travaillé.
Effectivement.
Donc, ça fonctionne hors ligne. Ça veut dire que... ça veut dire quoi exactement pour le commerçant?
Hors ligne, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de connexion. Donc, il y a certaines applications pour les utiliser. Vous avez besoin de la connexion. Alors qu'en Afrique, on sait que la connexion ne couvre pas partout. Donc, il faut aller sur un modèle où tout le monde peut l'utiliser selon l'endroit où il se trouve.
Et toutes les données, bien sûr, sont sauvegardées.
Oui, sont sauvegardées en interne, dans l'application.
C'est ça, pas seulement dans le téléphone. Hein. Donc, si le commerçant se fait voler son téléphone...
Et vous rapatriez les données sur un serveur ou c'est le commerçant qui garde des informations? Non,
pour le serveur, ça dépend du commerçant, puisque nous sommes dans un secteur où les gens sont trop réticents. Donc, il faut leur laisser...
Ils ont peur que vous communiquiez au fisc.
Oui, c'est ça. Donc, on leur laisse toutes leurs données. Mm-hmm. On n'a pas accès à ces données. Au moins, qu'on signe un contrat de confidentialité pour pouvoir exploiter ces données. Ces données sont exploitées seulement pour leur conseiller à plus rentabiliser leur commerce. Récemment, on a conseillé quelqu'un pour avoir l'accès à un crédit à partir de ces informations.
D'accord. Comment, c'est quoi le modèle économique? Comment vous gagnez de l'argent? L'application est gratuite pour le commerçant. À quel moment vous gagnez de l'argent?
Puisque tout est start-up, tout débit, je peux dire, est difficile pour chacun des start-up africains. Donc, au début, on a commencé à commercialiser un kit à 149 000. Donc, le kit...
140 000 francs CFA.
Oui, 140 000 francs CFA.
Ça fait...
Ça doit faire 200 et quelques euros.
Donc, on a commencé, pour pouvoir gérer les dépenses de l'entreprise, on a commencé à commercialiser le hardware, ça veut dire la solution composée d'un kit complet. Le kit, c'est une tablette, un socle de protection et une imprimante thermique, plus la configuration de l'imprimante. Mais notre modèle économique actuellement, c'est de rendre l'application gratuite et disponible sur tous les smartphones. Et les gens pourront télécharger l'application et revenir vers nous pour la formation qui est payante à 29 000 francs.
C'est ça. Donc, et en fait, le ticket d'entrée au départ, c'est gratuit,
gratuit
pour rentrer dans le système. Et puis, une fois qu'on a vu et qu'on se dit, tiens, c'est vachement pratique, là, il faut payer pour avoir plus.
Il faut payer pour avoir plus. Il y a aussi les wallets, les moyens de paiement que nous sommes en train d'intégrer.
Porte-monnaie électronique.
Porte-monnaie électronique. Et là, on va gagner une commission sur chaque transaction effectuée dans l'application.
Vous avez formé déjà plus de 800 clients?
Nous voulons former plus de 800 clients. Mais actuellement, nous sommes 300 clients.
300 clients.
Formés. Oui.
Au Sénégal.
Au Sénégal.
Quel genre de commerçants?
Je peux dire les métiers de bouche, les poissonneries. Les restaurants, les fast-food, il y a aussi certains boutiquiers qui utilisent la solution.
Aujourd'hui, les questions au coach, quelles sont-elles, Sidi?
Oui, les questions sont énormes, je dirais, puisque nous sommes dans un pays ou bien dans un continent où les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser des applications pour vendre ou bien suivre leur chiffre d'affaires. C'est un peu compliqué. Là, on vient auprès du coach pour demander quelle solution aujourd'hui il faut mettre en place pour pouvoir commercialiser.
Comment communiquer en fait
auprès de nos futurs clients.
Alors qu'on est, ils ne sont pas dans cette culture-là. Vous êtes déjà une équipe de 8 personnes?
8 personnes, oui. Mais donc, tout le monde n'est pas commerçant. Il y a une partie de développeurs. Et...
En fait, votre question, vendre plus à partir de vos équipes, ou convaincre les clients d'acheter les prestations?
Convaincre les clients d'acheter les prestations. Les prestations. Oui.
Ok, très bien. De toute façon, ce sont des solutions, entre guillemets, pour les commerces et les petits commerçants qui sont intéressantes. Les modèles les plus courants, c'est vrai, le software n'est pas payant, mais on agrège des services autour qui permettent de rentabiliser le modèle et l'investissement. Et c'est ce que vous envisagez à terme. Ce qui manque un peu, je trouve, dans le mode... Bon, d'abord, pour aller plus vite, si vous étiez associé, par exemple, à un opérateur de téléphonie mobile, vous auriez déployé la solution très rapidement, puisque les gens, tout le monde a un téléphone, même s'ils ne sont pas connectés à Internet. Mais vous avez tout de suite, si vous aviez, vous avez pris Orange, qui vous avait incubé, par exemple, vous auriez accès tout de suite à plusieurs millions de comptes clients immédiatement, à qui vous auriez pu proposer justement des services additionnels qui auraient pu être payants et qu'ils pourraient même payer par le mobile money.
Parce que ces services ne sont pas facturés très cher, donc il faut quand même faire assez vite beaucoup de volume de clients.
Alors, il faut faire, parce que le modèle sur lequel ils sont, un kit à 150 000, c'est déjà quand même des commerces qui sont établis, qui ont envie d'avoir un peu de règles de gestion, et c'est déjà un coût d'entrée, un coût d'accès un peu élevé. Donc, j'aurais eu, moi, tendance à réduire le coût d'acquisition le plus possible.
Vous trouvez que le positionnement prix, il est un peu élevé,
c'est ça ? Il est un peu élevé. Il est un peu élevé pour toucher le maximum, parce que n'oubliez pas qu'à ce prix-là, vous avez beaucoup d'alternatives en termes de comptabilité, de software online, offline, pour gérer une petite entreprise. Et surtout des softwares spécialisés, des logiciels qui sont spécialisés, qui sont customisés pour les clients. Si vous êtes une poissonnerie, ils vous le customisent, vous êtes une boucherie. Donc, vous avez une concurrence qui est déjà là
sur ce segment
avec des solutions pour les commerçants, avec des prix qui peuvent même beaucoup moins chers. Donc ça, c'est un peu le premier danger sur lequel je voudrais attirer votre attention. Mais pour répondre à votre question, moi, j'aurais piggyback, comme on dit, sur un opérateur qui aurait accepté de déployer piggyback, c'est-à-dire de vous mettre sur le dos de quelqu'un. C'est une expression marketing, en fait, piggyback. Vous mettez sur le dos d'un opérateur qui vous porte en réalité vers les commerçants et vous permet du coup d'inonder le marché avec vos produits. Et puis deuxièmement, surtout, ce que vous disiez indirectement, c'est que moi, je voudrais apporter de la valeur ajoutée à ces commerçants. Okay. Si vous arrivez à créer une plateforme, justement, où les clients, les consommateurs potentiels peuvent se dire, tiens, ceux qui achètent vos solutions, vous les mettez sur cette plateforme. Ou les clients qui visitent, donc les consommateurs qui visitent votre plateforme, vous pouvez leur dire, tiens, il y a un super boucher dans le quartier de Sandaga, à tel coin de rue, et ben vous lui générez une clientèle. Donc, si vous achetez mon application, vous téléchargez mon application, en plus, je vous fais gagner des clients. Si vous voulez en plus, chaque mois, si vous acceptez de partager vos données, on vous traite une comptabilité gratuitement. Au début, une comptabilité simple, et puis après, pour un petit 5 ou 10 000 francs. Donc, vous apportez des services à valeur ajoutée. Et donc, deuxième dimension qui me semble un peu manquer dans le projet, c'est ce que vous avez si bien dit. Comment j'amène de la clientèle vers ces commerçants qui sont mes clients à travers une plateforme où vous faites de l'acquisition de consommateurs qui sont intéressés par ces produits et ces commerçants, puisque vous êtes vraiment sur du marché grand public, du petit commerce, comme vous l'avez si bien décrit.
Sidi, finalement, j'ai l'impression que là, vous êtes un peu bloqué sur comment amener les commerçants culturellement à éprouver le besoin d'avoir ce type d'application informatique.
Effectivement.
Peut-être en proposant d'autres services qui sont plus accessibles culturellement, là aussi. En tout cas, qui sont perçus comme plus utiles directement, d'une certaine manière.
Ou du moins, qu'est-ce qu'il recherche ? Votre client recherche ? Votre client recherche simplement à sauvegarder les données. S'il y a un feu, s'il y a quelque chose qui retrouve ces données, où il cherche quand même à avoir une comptabilité et voir comment il gagne encore plus d'argent. Donc là, vous lui dites, tiens, je vous apporte une solution, entre guillemets, de contrôle gestion simplifiée pour que vous gagnez plus d'argent. Ou est-ce que son besoin, c'est qu'il veut plus de clients? Forcément, tout le monde veut toujours plus de clients. Donc vous faites le processus inverse. Je vous apporte des clients si vous acceptez de télécharger mon application, d'utiliser mon application qui est gratuite,
etc. Et vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer. Est-ce que vous avez une autre question ?
Et du coup, une fois qu'il utilise votre application, là, vous lui apportez des services à valeur ajoutée qui deviennent payants, un petit coup 3 000 francs, un petit coup 5 000 francs, un petit service 10 000 francs. Et là, sur le volume, là, vous devenez un peu riche, ceci dit.
Okay. Vous pensez que cela peut constituer un accélérateur de croissance pour Webby ou bien ?
Clairement, si demain vous partez avec, vous prenez un partenaire, un opérateur mobile qui touche déjà aujourd'hui des millions de clients, d'abonnés, et dans ceux-là, si vous avez des centaines de milliers de commerces, vous imaginez la pénétration que vous faites. Ça, c'est un accélérateur incroyable parce qu'en plus, ils vont faire du push par SMS, du push par mail. Vous n'avez même plus besoin de rien faire. C'est-à-dire, chaque jour, le commerçant reçoit un petit SMS, télécharge telle application, tu vas gagner beaucoup de clients, tu vas mieux gérer ta petite affaire. Donc, c'est vraiment un accélérateur si vous arrivez à trouver un partenaire
Les opérateurs de téléphonie mobile, ils sont quand même très, très, très sollicités en ce moment par toutes les startups de l'écosystème. Il y a d'autres startups qui font la même chose que vous ou pas, très honnêtement, Sidi ?
Oui, il y en a.
C'est ça.
Il y en a beaucoup même.
Vous savez, c'est aussi un peu le job de ces gros opérateurs. Pourquoi ils acceptent de créer des incubateurs ? C'est pour trouver justement des startups comme celle de Sidi qui apportent de la valeur ajoutée, parce que finalement, un opérateur, aujourd'hui, il vit de contenu. il lui faut du contenu comme ce que propose Sidi, puisque la voix devient, entre guillemets, presque non payant avec
Donc c'est gagnant-gagnant.
Vous
en
discutez,
fait.
Bah, bien sûr. Donc,
Sidi, une dernière question.
Ils ont intérêt à trouver des partenaires qui fournissent le contenu.
Est-ce qu'on a répondu déjà?
Oui, c'est clair. Ça répond à mes attentes. Donc, côté aussi toujours commercialisation, au niveau international, qu'est-ce que vous nous conseillez? Actuellement, nous avons des distributeurs dans certains pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, pas mal de pays. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez?
En fait, c'est presque le même point, c'est trouver un partenaire qui a une force de pénétration sur le marché qui est très forte, comme un opérateur ou d'autres. Parce que le temps d'acquisition des clients avec votre force de vente vous prendra beaucoup de temps et vous coûtera trop cher. Et comme c'est des solutions mobiles sur le téléphone, trouvez un partenaire qui arrive directement sur le mobile des gens et qui peut pousser votre produit. Et là, vous faites l'économie d'une force de vente, d'investissement, de bureau, de recrutement. Ça ira beaucoup, beaucoup plus vite, selon moi.
Sidi, Webby, 300 clients à l'heure actuelle. Vous visez les plus de 800 clients. Vous êtes déjà une équipe de 8 personnes. Et voilà, vous êtes en phase de changement d'échelle. On vous souhaite bonne chance.
Merci.
Vous nous tenez au courant. Merci d'être passé par le studio des Merci. 7 milliards de voisins pour discuter en direct
avec
le coach.
Merci Sidi.
Et bon retour à Dakar.
Merci.
On poursuit, vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On passe à un deuxième projet, Ibrahima, qui est aussi au Sénégal. Ça sera juste après Patrick Ruffino, Comeback. Nous avons en ligne à présent Ibrahima, 32 ans. Vous résidez dans la région de Kaolack. Vous êtes aujourd'hui à Dakar. Bonjour Ibrahima.
Bonjour.
Ibrahima, vous avez un diplôme de licence en sciences économiques et un master 2 en économie rurale à l'université Cheikh Diop de Dakar. Et bravo. Vous résidez maintenant, vous êtes revenu au village. C'est le village de Daharou, c'est ça, dans la région de Kaolack?
Oui.
Hein? Et vous avez créé... Alors, il y avait une première entreprise informelle de culture de manguier où vous faites aussi un peu de maraîchage, c'est bien cela?
Voilà, effectivement.
En famille?
Oui, c'est du maraîchage en famille et des champs de type familial.
D'accord, et ça marche pas trop mal, ça fonctionne?
Oui, ça fonctionne un peu.
Oui, un peu, oui, c'est ça.
Ouais, tant que c'est déjà un peu, c'est un bon début.
Bon, mais en tout cas, vous souhaitez maintenant, parce que vous avez ce diplôme en économie rurale, vous avez plein de ressources, je veux dire, dans la tête, hein, et vous voulez maintenant créer une entreprise avicole pour élever des poussins, vendre des poulets. Vous êtes vraiment ce qu'on appelle un diplômé qui est retourné à la terre, finalement.
Oui, effectivement, parce que c'est la terre, il faut mettre en œuvre notre expérience et ce qu'on a appris à l'école, il faut mettre en valeur la terre. Mmh. Donc, raison pour laquelle je me suis retourné pour, voilà.
Et pourquoi la filière avicole, les poulets?
J'ai choisi ce projet parce que c'est un marché très prometteur chez nous, mais aussi parce que il faut, y a un déficit sur le marché à combler. Donc je vois que c'est un projet qui sera très rentable.
C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes, parce que le poulet, grosso modo, c'est la première viande consommée dans le monde, hein, le poulet.
Oui.
Je ne dis pas de bêtises.
Et
hein,
dans
à
beaucoup
côté.
De pays, oui, oui, non, mais même des pays comme la Côte d'Ivoire, visiblement.
C'est moins cher que le mouton, bien
exactement,
évidemment.
Ouais. Ouais.
Et pourquoi un déficit chez vous?
Vous voyez, nous avons une population qui croît très rapidement. Mmh. Vous voyez, surtout les populations dans les pays d'Afrique, il y a une croissance de 2,49% au Sénégal, croissance de la population. Donc, avec une population qui augmente de manière...
Exponentielle, hein, on peut le dire.
Exponentielle, effectivement. Et il y a la production qui augmente de manière arithmétique. Donc, vous voyez, il y a toujours...
Et le Sénégal a une politique pour protéger sa production avicole, en plus, hein.
Oui, il y a toujours les barrières qui ont été, et la mesure qui a été mise en place interdisant les exportations de produits.
Les importations.
Les importations, oui.
Ouais, ouais. Le Sénégal donc n'importe pas de poulet, mais du coup, effectivement, à terme, il n'y aura pas assez de poulet pour tout le monde. Votre projet, c'est de produire à grande échelle, hein, c'est ça? Vous voulez quoi? Vous voulez produire carrément une marque de poulet? Vous voulez transformer ou en tout cas maîtriser également l'abattage ou pas?
Non, mon projet, c'est d'abord la production des poulets. Donc, on élève les poussins, on les produit et ensuite on les vend sur le marché. Donc, c'est une production, je dirais, à moindre et grande échelle. Les producteurs de cette taille n'existent pas trop dans le pays. Mmh. Voilà, raison pour laquelle il faudrait des industries de cette taille pour vraiment satisfaire cette demande qui reste toujours à être satisfaite.
D'accord.
Vous
avez démarré ou pas? Ou pour l'instant, vous êtes à une toute petite échelle?
Démarré de manière de type familiale. Ce que je vis, c'est d'abord la mise en œuvre de ce que j'ai appris à l'école, à l'université. Donc, je vise à développer une entreprise. D'abord, c'est une ouverture, c'est un commencement. Mmh. C'est un commencement, mais ce que je vise d'abord, c'est encore l'agriculture qui est vraiment une activité complémentaire avec l'agriculture. Ce sont des activités qui peuvent aller ensemble. Donc, je dirais que ce sont deux projets complémentaires.
D'accord. Bon, vous voulez conjuguer l'agriculture, l'élevage, ça, c'est pas bête. Ibrahima, vous disposez seulement d'un terrain. Or, évidemment, vous avez besoin de cash pour construire des bâtiments, etc., pour les poulets.
Voilà, effectivement. Le terrain est disponible. Donc, chez nous, ça ne manque pas de capital. Oui. Le terrain est toujours là. Mais le défaut, c'est le financement numéraire.
Les questions au coach?
Le financement, d'abord. Parfois, on fait recours aux prêts bancaires. Parfois aussi, il y a une solution de l'association. Ce que je demande, c'est est-ce que si je choisis la solution de l'association, quels sont les critères pour sélectionner un bon associé? Deuxièmement, le projet aussi vise à créer des emplois. Vous voyez toujours qu'il y a 6 emplois qui sont créés. Il y a le gérant, il y a 3 ouvriers, il y a un gardien et aussi un chef comptable. Donc, je voudrais savoir quels sont les critères que je dois mettre en avant pour avoir un bon profil.
Très bien. Alors, déjà, vous êtes sur un marché qui est en pleine croissance. Les Africains mangent énormément de poulet. Et je sais que la demande est loin d'être satisfaite dans beaucoup de pays. Je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est énorme le débit de poulet. Et donc, vous êtes sur un marché qui est en pleine croissance. Et Ibrahima, j'appelle ça le syndrome zizi coin-coin, c'est-à-dire vous avez un marché, vous avez une idée, et puis vous tournez en rond, vous faites 30 poulets, 30 poulets, moi je vous les mange en une semaine, donc vous n'irez pas bien loin. Donc, il faut déjà, comme vous avez compris votre marché, vous avez en plus fait une étude, que vous dimensionniez proprement votre projet. C'est un marché qui croît vite avec beaucoup d'acteurs. Est-ce que vous savez, parce que déjà je voudrais que vous me disiez le segment de marché que vous prenez. Est-ce que c'est du poulet de chair? Est-ce que c'est des poulets que vous faites croître en quelques semaines, que vous revendez? Quel est le cycle vente? Le choix de votre associé va être lié à votre choix de projet économique. Est-ce que vous avez besoin d'un associé qui apporte des ressources financières, donc qui va financer le business, ou un associé qui apporte un savoir-faire technique, donc qui connaît le business de l'élevage, avec ce que ça comporte comme impératif sanitaire, circuit d'approvisionnement, circuit de vente, etc.
Ibrahima, donc, est-ce que vous pouvez répondre déjà à ces questions-là brièvement, Ibrahima?
Oui, pour la première question, ce que j'ai besoin de l'associer, c'est tout de suite et maintenant seulement les ressources financières. En ce qui concerne l'expérience et l'industrie...
Vous avez les compétences, d'accord. Mais quel type de poulet vous allez produire? Vous ne nous l'avez pas dit, ça, Ibrahima.
On prend les poussins, on les élève et on les vend.
En combien de jours?
En 45 jours.
Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Donc, vous êtes sur un cycle court et donc... Dans ce cycle court de ce que je connais vraiment de très loin de ce marché, vous n'avez pas forcément besoin d'un énorme investissement parce que votre retour sur investissement est très rapide. C'est des cycles courts de 45 à 50 jours. Donc, à la limite même, c'est ce que j'appelle au début du Friends and Family qui croit, quand vous avez fait 3-4 cycles de vente, vous avez déjà généré un peu de ressources pour commencer à faire votre investissement. Donc, ça veut dire que si vous achetez un poussin, à combien vous achetez le poussin?
Le petit poussin, c'est à 800, 700.
Bon, donc, en tout cas, moins de 1000 francs, ça veut dire que déjà, si quelqu'un vous prête 300 000 francs, vous avez déjà, vous voyez ce que déjà vous pouvez générer et gagner, d'autant plus que qu'après, je suppose qu'on l'avait acheté à 600, 700, vous le revendez, je sais pas, au moins 2000, non, 2000, 2500 ou...
Bon, il faut les nourrir aussi un peu, hein, pendant 45 jours, les vacciner éventuellement, qu'il y ait des contrôles vétérinaires, etc. Parce que vous voulez quand même faire un minimum de qualité. Hein.
Donc, son investissement, ce que je voulais dire, c'est que le partenaire financier que vous choisissez va dépendre de là où vous voulez qu'ils viennent. Si c'est les infrastructures d'investissement qui ne sont pas non plus excessives, d'autant plus que si vous commencez par un petit volume, vous allez faire 3, 4, 5 cycles et là vous générez assez de ressources pour ne même plus à la fin avoir recours à un partenaire financier si vous êtes dans un cycle d'investissement progressif, comme vous disiez au début, je vais lentement, progressivement, je vais faire mon business. Sinon,
la somme nécessaire, finalement, il n'y a pas besoin d'une association pour démarrer. Vous estimez à combien, finalement, la somme, Ibrahima, pour démarrer?
Voilà, sauf si vous voulez faire 10 000 poulets le premier mois, ou 20 000. Hein,
Pour commencer, j'ai intégré le prix du terrain, parce que ici, le terrain, j'ai estimé le coût du terrain, qui est de 5 hectares. Donc, pour commencer, j'ai besoin de 5 955 francs CFA.
Oui, donc ce n'est pas un investissement qui est considérable. À ce niveau d'investissement, 7 000 euros, non, 7 8 000 euros à peu près. À ce niveau d'investissement, vous trouverez de façon difficilement, à mon avis, un banquier. Mais si vous avez déjà fait la preuve que vos poussins de 45 jours, vous avez déjà réussi à vendre 3, 4, 5 cycles, vous avez des clients qui vous les achètent, là, un banquier pourrait venir parce que vous avez déjà démontré que votre modèle fonctionne. Donc, pour l'instant, le banquier, je ne le vois pas trop venir. Les organismes de microcrédit, les taux sont extrêmement élevés. Non, mais puis les taux sont assez élevés. C'est ça, les taux sont élevés par rapport aux marges que vous allez dégager sur les 3, 4 cycles que vous allez faire. Donc, moi, honnêtement, votre partenaire financier au début, c'est ce que j'appelle la famille et les amis. Où vous pouvez leur dire, écoutez les gars, si vous mettez chacun 500 000, je vous rends votre argent d'ici 12 mois. Et en plus, comme je vais vendre sur des cycles de 45 jours, je vous rembourserai déjà à 20% de votre investissement
au fur et à mesure.
Tous les 45 ou tous les 2 mois. Vous voyez donc, les gens sont confortables pour mettre un peu d'argent. Et ils vont voir que vous remboursez petit à petit. Après, quand vous allez, pour qu'ils remettent 3 millions, 4 millions, ils les mettront plus facilement. Sinon, la banque s'exclut, la microfinance c'est un peu cher, je peux même pas parler de private equity à ce niveau-là. Donc
la
on
question
est un peu
de fond, Didier, hein, finalement, le cas d'Ibrahima, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de revenir à la terre, qui ont un terrain, parce que les terres, c'est pas ça le problème, d'avoir des terrains. Un jeune diplômé en économie rurale, est-ce qu'il peut entreprendre dans l'élevage avec un projet de modernisation agricole? Parce que c'est ça que vise Ibrahima aussi. Hein.
Oui.
Quelque chose en plus grosse quantité, plus moderne, plus efficace, avec davantage de contrôle sanitaire aussi, sans réellement beaucoup de capital de départ.
C'est généralement là où on attend les États. C'est-à-dire, en principe, dans la région où il vit, on doit avoir cet écosystème qui permet d'abord d'avoir des vétérinaires qui vont le rendre visite, d'avoir des experts en élevage qui vont l'assister. Il y a déjà des débouchés. Et en fait, Ibrahima, qui lui est très volontaire, qui a étudié, qui a un bon projet, on dit, écoute Ibrahima, tu t'installes, eh ben, on t'accorde un financement de 5 millions pour démarrer. En plus, on contrôle ta production. Et donc...
Voilà, le message est bien passé pour le ministère de l'Agriculture.
Ça devient rapide.
Et de l'élevage.
On crée des centaines, des milliers d'emplois parce qu'on a des entrepreneurs et des marchés, mais avec un écosystème qui fait défaut dans les régions où les gens veulent entreprendre.
Ibrahima, très bonne chance pour cet élevage de poulets en 45 jours. Bon retour au village de Darou dans la région de Kaolack. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Bonne journée, Ibrahima.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On va donner la parole dans quelques instants à Mahamadou, 27 ans, installé à Bamako. Ça sera juste après The Shines chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est avec le coach Didier Akwété et bien sûr, nous vous écoutons concernant vos projets. Vous êtes les nouveaux jeunes patrons de l'Afrique qui gagne, mais pour cela, c'est une course d'obstacles qu'il faut dépasser les uns après les autres. Nous accueillons un nouveau voisin, Mahamadou, 27 ans, à Bamako. Bonjour Mahamadou.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Mahamadou.
Bonjour Didier.
Mahamadou, vous êtes diplômé, vous avez une licence en marketing management à l'Institut supérieur de commerce, qui est une business school à Bamako, hein, c'est bien ça ?
Exactement.
Et votre projet qui a démarré en fait hein, il y a 2 ans, ça s'appelle Emploi et moi, c'est une entreprise formelle de placement d'informations aussi pour toutes les personnes en recherche d'emploi. Expliquez-nous un petit peu qui ça concerne, hein, parce que la recherche d'emploi, c'est quand même tellement vaste. Est-ce que c'est parce que vous-même, en tant que diplômé, vous avez connu des galères de recherche d'emploi, de recherche de stage ?
En fait, d'aventure est venue quand j'étais étudiant, en fait. Du coup, je publiais des offres, j'animais le forum de l'école, et je publiais des offres permanentement sur le forum, ce qui a permis à bon nombre d'étudiants d'avoir des jobs ou même des stages.
Et comment vous trouviez ces offres d'emploi, vous, quand vous étiez étudiant, pour pouvoir les publier, en faire profiter les autres ?
En fait, c'était grâce à mes veilles que je faisais via les autres sites, en fait.
Ah oui, donc dès les études, vous étiez sur ce créneau de la recherche d'emploi et de l'offre d'emploi.
Exactement. D'où l'idée de créer une structure qui va en droite recline avec ce que je fais afin de pallier au manque d'informations des emplois disponibles sur le marché du travail et renforcer les ressources humaines des entreprises.
Ouais. Et concrètement, comment fonctionne Emploi et moi alors ?
Bon, Emploi et moi est un, à la base, nous fonctionnons comme un cabinet de recrutement.
Ah d'accord, donc c'est ce que fait Didier à côté, hein, finalement. Vous êtes le nouveau concurrent d'Afrique Search.
J'ai découvert mon grand concurrent.
D'accord.
Mahamadou, je risque de fermer, attention.
Nous sommes en réalité un facilitateur RH qui se différencie par les coûts de ses services de recrutement, placement, coaching, contrôle renforcé de la recherche d'emploi, des formations, des publications d'annonces et des fiches de poste. Et l'approche SMART en utilisant tous les moyens de communication digitaux afin de rapprocher les demandeurs d'emploi et les entreprises.
D'accord, normal. Vous faites du digital, vous avez 27 ans et vous cassez les prix. C'est super.
Exactement. Nous avons mis aussi en place le premier magazine RH numérisé 100% RH, tiré à 2000 exemplaires pour promouvoir les bonnes pratiques RH et promouvoir les profils des demandeurs d'emploi à travers une rubrique CVTech.
Mmh. Et depuis 2 ans, comment rentre l'argent alors, Mahamadou ?
Bon, depuis 2 ans, nous gagnons à travers les placements.
Donc vous êtes rémunéré comme un chasseur de tête en honoraire de placement ?
Exactement.
Comme un site de placement en ligne, pas chasseur de tête. C'est juste une petite nuance. C'est un site de placement en ligne.
Généralement, nous nous adaptons à toutes les entreprises, en fait. Par exemple, il y a une organisation qui nous a contactés pour 30 stagiaires. Nous avons fait une offre sur mesure de propositions commerciales adaptées. Nos honoraires de placement et de recrutement varient de 15 à 45% selon les entreprises.
15 à 45% du salaire qu'ils vont payer aux candidats, c'est ça ou vos honoraires, c'est
ouais,
ça.
Donc sur un stagiaire, évidemment, ça ne va jamais être très rentable. Hein. Mais évidemment, vous gagnez plus.
Il est calculé sur...
Ça dépend si c'est 30 étudiants en médecine et qu'ils ont un tatouage.
C'est pas de la chasse de tête, ça, Didier, à côté ?
Alors non, la chasse de tête est un peu différente. Eux, ils ont en fait un site d'emploi.
Ah ouais, mais là, c'est du sur mesure pour un client. C'est ce dont il nous parlait. Hein,
alors, ça dépend. Il a peut-être pas terminé. Si vous avez une équipe qui va chasser sur les réseaux sociaux, qui va chasser dans les entreprises, etc. Donc, ça consomme un plus de temps, un peu plus de ressources.
En fait, nous analysons les profils et puis après échange avec le client, nous déterminons les bons profils adaptés à la personne ou à l'entreprise afin de les envoyer. Mais avant de les envoyer, nous les faisons un pré-entretien à l'interne.
D'accord. En 2 ans, vous avez placé combien de personnes ?
Nous avons inséré plus de 263 jeunes.
Mmh.
Et par la suite, l'AFD, en 2018, l'AFD nous a sélectionné.
L'Agence française de développement.
C'est ça. Ouais.
Exactement. Pour le programme Social Inclusive Business Camp à Marseille.
Waouh.
Du coup, on est allé pour représenter le Mali sur ce créneau-là.
Bravo.
Et en 2019 et tout, on a été meilleur start-up kick de l'année aussi.
Mmh. Sur quoi vous gagnez le plus là ? Qu'est-ce qui est le plus rentable pour vous ?
Nos placements et le magazine.
Via la pub, hein, c'est ça ?
Via la pub. Parfois, on a des contrats de 6 mois ou d'un an de campagne avec les entreprises qui souhaiteraient promouvoir leur activité ou promouvoir un produit ou service à un moment donné.
Ouais.
Et les magazines sont distribués de façon stratégique afin que les entreprises susceptibles de recruter par la suite, en fait.
Alors, c'est quoi les questions au coach Didier Akouété ? Parce que ça a l'air de bien marcher pour le moment.
Oui, ça marche bien. Nous sommes une équipe de 5 personnes. Nous évoluons toujours en fonds propres. Et dans les 5 personnes de l'équipe, aucune n'a de formation RH. Pourtant, on répond à un besoin crucial des entreprises.
Alors attendez, vous faites du recrutement, mais vous n'êtes pas formé au RH. Ça, c'est quand même un problème.
Moi, je suis spécialiste en marketing management, mais j'ai une passion pour la RH, en fait.
D'accord.
Donc, du coup, comment professionnaliser notre activité pour éviter d'avoir recours à des prestataires extérieurs qui sont chers, par exemple pour des formations de commerciaux ou de développement personnel.
Ma
deuxième question est comment se démarquer de la concurrence pour récupérer une grande part de marché et recruter des très bons profils pour les entreprises qui nous sollicitent.
Vous
n'êtes pas tout seul, il y a Afrique Search et puis il y a tous les autres copains de Didier à côté.
Je pense que bientôt on va vous recruter.
Justement, j'allais vous dire recrutez-moi alors, je viens vous former. Non, en fait, c'est vrai que c'est un business où on n'a pas forcément besoin d'être un expert. Si vous ne faites pas de conseils en ressources humaines, vous faites plutôt du recrutement dont vous identifiez des profils qui correspondent à des besoins des entreprises. Et parfois, les entreprises disent au cabinet, trouvez-moi les CV, je m'occupe du reste. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment plutôt trouver quelqu'un à qui vous donne un peu cette lecture un peu technique des profils, mais que vous avez. Si, par exemple, on vous demande de recruter quelqu'un en marketing, je suis sûr que vous arriverez à le faire parce que vous comprenez bien les attentes qu'on a vis-à-vis de quelqu'un qui fait du marketing. Donc, sur la partie métier, on ne peut pas connaître tous les métiers, donc c'est plutôt la technicité pour détecter l'expertise que le client recherche chez un candidat qu'il vous faut et non pas forcément une maîtrise intégrale de tous les métiers, parce qu'il y en a un peu trop. Si on vous demande par exemple de recruter, 30 médecins ou 30 étudiants en médecine pour un stage, vous n'avez peut-être pas de médecin dans votre équipe, mais vous allez essayer de regarder les aptitudes qu'on attend d'un futur médecin pour pouvoir dire à votre client, a priori, ces étudiants nous semblent avoir les aptitudes pour être des bons stagiaires demain. Donc, c'est plutôt apprendre à votre équipe à identifier, à détecter les capacités, les qualités qu'un client attend des candidats ou des stagiaires que vous placez.
Ouais. Sachant aussi que c'est chronophage, parce que quand même, il faut voir la démographie, le nombre de jeunes qualifiés qui recherchent des emplois. Le risque aussi, c'est de crouler sous les CV, de ne pas,
de toute façon, pas pouvoir les déployer. Moi, je me souviens, à Bamako, au Mali, on avait parfois des recrutements où pour un poste, on avait 2 à 3 000 CV, dont 98% ne correspondaient pas. Donc, sur ça, bon, ça, c'est probablement une autre question. Ce qui me séduisait en fait dans la présentation au début de Mamadou, c'est le côté la plateforme en ligne, il y a des CV et les clients viennent piocher sans que vous, ça soit chronophage pour vous et que vous ayez à déployer des équipes, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a de l'intelligence artificielle qui permet de faire les tris de
avec
CV en ligne,
etc.
Et donc je pense que c'est là où en termes de positionnement vous aurez un peu de valeur ajoutée et éviteriez d'avoir
donc,
peut-être trop d'équipes en interne.
Le positionnement, il faut le revoir comment alors finalement, Didier? À côté.
Moi, je pense qu'ils avaient une plateforme en ligne qui semblait bien fonctionner. Maintenant, si vous commencez à rentrer dans de la chasse, dans des entretiens physiques, là, ça va vous coûter beaucoup plus cher.
En temps passé.
Parce que le client a plus d'exigences, il vous faut plus de consultants, il vous faut plus de travail. Et là, vous rentrez sur un segment qui demande peut-être un peu plus d'investissement, à mon avis.
Mahamadou ?
Ok, oui.
Non, mais donc, c'est ma recommandation, je ne sais pas si c'est un peu l'idée que
donc
vous aviez.
Il faut changer un peu de positionnement, revenir à du digital, un peu moins chronophage d'une certaine manière, et puis sur le fait que pas vraiment de formation RH, ce n'est pas fondamentalement le vrai problème.
Ça, ce n'est pas gênant, et vous avez des experts que vous pouvez faire intervenir à la demande, selon ce que les clients vous demandent, okay. Ce que la plupart des cabinets font.
Vous y croyez pas trop de concurrence sur ce secteur-là?
Il va en avoir de plus en plus, mais comme il y a de plus en plus de jeunes qui cherchent des emplois, et puis s'il y a une croissance des entreprises qui vont recruter,
normalement, il y aura de la place pour tout le monde.
Il y aura de la place, sauf qu'il faut le faire plus vite, moins cher, probablement, si vous avez une plateforme en ligne pour que les clients continuent de venir vers vous.
Mahamadou, merci d'avoir été en ligne avec nous. Bonne chance pour Emploi et moi, pour le déploiement de cette plateforme digitale pour aider les jeunes à trouver un emploi.
We're gonna fight up. We gon' make it right. We gon' hit the floor. Get down tonight. There's a spark that's burning and it's got my feet on fire. Living in the moment, guilty pleasures fill my mind. Don't be ashamed, love, let the rhythm take you high. Show me what you're made of, take my hand, now don't be shy. We only get one life to live, time's ticking away. Time's ticking away. Slipping. A toast for the night, cheers to love, now we celebrate. Baby, come feel the heat.
By the way, is it moving? I like it.
Can you keep up with me?
So come a little closer and whisper.
Your secret's safe with me.
I'll let you hear all that you wanted.
Live your fantasy. Of desire, tie me up and lose the key. Wanna spend the night and give you everything you need. I can go by my girl, can you stand up to my fire? You just stay with me, cause baby, I can take you high. We only get one life to live, time's ticking away.
Just slipping.
A toast for the night, cheers to love, now we celebrate. Baby, come feel the heat.
By the way, is it moving? I like it.
Can you keep up with me?
So come a little closer and whisper.
Your secret's safe with me.
I'll let you hear all that you wanted.
Live your fantasy.
vie à côté. Alors, on a vu un projet d'élevage de poulets, des jeunes qui démarrent tout juste, hein, finalement, une plateforme de placement de personnes pour l'emploi, et puis une start-up déjà qui commence à être réellement aboutie de logiciels de vente pour les commerçants. Qu'est-ce qui vous séduit le plus? On est vraiment sur des secteurs complètement différents, les services, oui, l'élevage, l'agriculture.
Des secteurs très différents, mais qui sont tous des secteurs a priori en croissance. Donc ça, c'est d'abord la première bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que, pareil sur les projets, je dis souvent comment on segmente son marché et comment on regarde la chaîne de valeur, à quel niveau de la chaîne on va se situer. Ibrahima qui fait
dans
du
poulet. Dans la région de Kaolack.
Vous voyez, son cycle d'activité, selon l'analyse qu'il va en faire, il va regarder quel type d'investissement il lui faut. Donc, je segmente mon activité, je me situe à tel moment de l'activité, voilà le type d'investissement dont je vais avoir besoin. Mamadou, pareil, il a une bonne idée, il a un site. Maintenant, je m'adresse à quel client? Et je m'amusais à prendre l'idée des 30 jeunes médecins. Sur ces 30 jeunes médecins, est-ce que mon client veut qu'ils aient un tatouage? Oui. Est-ce que mon client veut qu'ils sachent opérer du cœur demain? Non. Est-ce qu'ils veulent qu'ils fassent monter les gens au rideau quand ils mettent une piqûre? Et donc, c'est à peine la plaisanterie, mais ça permet réellement de bien segmenter son marché, de prendre un angle dans lequel on commence au début, et une fois qu'on est assez fort, on peut après élargir son spectre.
C'est ça, et de coller aux attentes de sa cible.
Exactement. Et ça revient à notre premier, à Sidi.
Pour le logiciel, pour les commerçants.
De quoi ces clients ont besoin. Vous voyez, il a développé une application pour des commerçants qui, selon lui, ont besoin de cette application parce qu'ils s'y perdent leurs données, etc. Mais peut-être que ces commerçants attendent d'autres choses.
Et donc, l'analyse du besoin. Dans le cerveau du client.
Voilà, l'analyse du besoin, faut encore peut-être un peu mieux la faire, sinon toutes ces idées sont bonnes. C'est ce que j'appelle généralement des marchés MeToo, parce que tout le monde peut rentrer sur ces marchés. Il y a déjà beaucoup d'acteurs, mais il faut prendre le bon segment, le bon positionnement pour choisir ses partenaires, ses investissements, etc.
Ça sera le mot de la fin. Merci à tous les JPAG, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu passer dans l'émission, on vous donne la parole dans la prochaine émission avec le coach, c'est promis. Merci à vous Didier Akwété.
Merci Emmanuel Bastide.
Le mois prochain, merci aussi à toute l'équipe. Delphine de Dianous qui a préparé cette émission avec les JPAG, avec toujours aussi beaucoup de patience. Les lignes ne fonctionnent pas aussi. On se parle à distance et on travaille sur vos projets. Il faut retravailler aussi les business plans. On ne le dit jamais assez, Didier est toujours déçu quand il n'a pas de business plan bien fourni parce qu'il ne peut pas vous aider comme il le voudrait. Merci aussi à Sigrid Azeroual, à Romain Dubrac qui a réalisé cette émission. Demain, 7 milliards de voisins, c'est Samira Ibrahim qui présente l'émission. Elle vous donne la parole pour dialoguer avec deux reines, Rokhaya Diallo, Absa Toussi, qui raconteront leur parcours de Françaises issues de la diaspora du continent. Vous pourrez leur poser toutes vos questions en direct au 33 1 84 22 71 71. Et quant à moi, je vous retrouve à Dakar pour donner la parole aux femmes entrepreneuses dans le digital. Et le vendredi 14 juin, je vous donne rendez-vous physiquement à l'université de Thiès à 9h pour une émission en public. Que faire après son diplôme? Valoriser son CV, chercher un boulot dans une entreprise ou bien créer son propre emploi? C'est une vraie question, hein, Didier Akwété.
C'est une vraie question.
Et on l'entend souvent, nos créateurs de start-up, ils ont bossé 3-4 ans dans des entreprises. Enfin, et en même temps, les jeunes diplômés, ils se disent, est-ce que j'y vais tout de suite? Voilà, c'est des vraies questions qu'on va discuter à l'université de Thiès. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission, pour nous parler de vos hésitations, de vos difficultés, pour vous orienter.